Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'était cet après-midi le deuxième discours de politique générale du Premier ministre Édouard Philippe, un discours présenté comme le véritable lancement de l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron, avec pour horizon, même si ce n'est jamais dit, les prochaines échéances électorales. Et pour lancer cet acte 2, c'est bien le Premier ministre qui était à la manœuvre devant l'Assemblée. Édouard Philippe a donné un calendrier, une méthode et surtout des priorités, dépassement des clivages partisans, accélération écologique, justice sociale. Au-delà du discours, Édouard Philippe a demandé à être jugé sur les actes. Et justement, à quoi va ressembler l'acte 2 du quinquennat? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Pauline Thévenot, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste politique au quotidien Le Parisien et co-auteur de Les Apprentis de l'Élysée, qui est sorti au mois d'avril aux éditions Plon. Et Arnaud Benedetti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne. Vous avez donc écouté ce discours de politique générale. Qu'en avez-vous pensé? Qu'est-ce qui vous a frappé en particulier, Pauline Thévenot?
Alors, c'est que Édouard Philippe déjà a tenu la promesse, en tout cas ce qui était annoncé, de se montrer très très concret. Hein, voilà, l'idée c'était de, comme il l'a dit, montrer qu'il allait mettre en œuvre fidèlement, a-t-il dit, l'acte 2 qui en réalité avait déjà été présenté par Emmanuel Macron le 25 avril lors de sa conférence de presse où il présentait les solutions qu'il avait lui-même élaborées pour sortir de la crise des Gilets jaunes.
Arnaud Benedetti, qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé?
Bon, il s'agissait de ramasser un peu un puzzle, si vous voulez, qui s'était quelque peu éparpillé au niveau de la, j'allais dire, des propositions. Donc, on voit qu'il y a un discours qui a fait sa place un peu au sociétal, avec notamment l'annonce sur la PMA, beaucoup à l'écologie, et ça, c'était une nouveauté par rapport, justement, notamment aux déclarations du président de la République le 25 avril. Entre-temps, on voit qu'il y a eu la campagne des européennes et les résultats que l'on sait, qui ont manifestement quand même quelque part infléchi d'une certaine façon le logiciel politique de la Macronie. Il fallait aussi montrer qu'on était quand même toujours dans le cap de la réforme, avec notamment la réforme de l'assurance chômage, entre autres. Donc il fallait ramasser tout ça, redonner de l'élan, redonner de la perspective, et montrer que finalement, la communication qui semblait avoir été un peu ébranlée était à nouveau remaîtrisée, cette fois-ci par le Premier ministre.
Et alors, Pauline Thévenot, vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est Emmanuel Macron qui en fait avait lancé avant Édouard Philippe l'acte 2 de ce quinquennat, mais quand même le simple fait que Édouard Philippe soit envoyé comme ça à la manœuvre montre qu'il pèse désormais très lourd sur le plan politique. On avait pu entendre ici et là des doutes avant les élections européennes. Là, il est présent. Et il assume ce poids, il assume ce rôle. Hein. On parle souvent du duo entre le président et le Premier ministre. Là, Édouard Philippe pèse plus lourd que ce que c'était il y a quelques semaines.
Alors tout simplement parce que les élections européennes sont passées par là. Il a eu chaud, hein, si l'on peut s'exprimer ainsi, Édouard Philippe, parce que finalement le résultat des élections européennes, alors ça reste une défaite, hein, le parti LREM est arrivé en seconde position derrière le Rassemblement National de Marine Le Pen, néanmoins avec un écart moins important que ce que les marcheurs, les macronistes pouvaient craindre. Par ailleurs, ces résultats ont démontré, c'est que la fracturation à droite et la captation de l'électorat de droite avaient fonctionné. Or, c'était l'une des missions d'Édouard Philippe, donc il est conforté à Matignon. Et là, avec ce discours de politique générale, c'est lui qui est en première ligne. Aussi parce que le président est beaucoup monté au front lors du grand débat, il a apporté les solutions de sortie de crise, donc il avait certainement aussi en tête de mettre un peu plus Édouard Philippe en avant. Il y a un détail quand on parle du poids politique d'Édouard Philippe qui est quand même cocasse, c'est que ce que l'on sait et ce que l'on indiquait ce matin dans Le Parisien, c'est que c'est Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale et fidèle parmi les fidèles d'Emmanuel Macron, qui avait eu l'idée à l'origine, juste avant les élections européennes, de ce discours de politique générale.
Arnaud Benedetti, est-ce que Édouard Philippe prend un petit peu plus d'importance? C'est un des membres les plus politiques du gouvernement. Il y a beaucoup de techniciens dans ce gouvernement. Édouard Philippe, lui, il a été maire du Havre, proche d'Alain Juppé. Il sait très bien ce qu'il fait quand il se met en avant comme ça.
Mais alors d'abord, une remarque, c'est que finalement, l'aile droite de ce gouvernement est composée essentiellement de vrais politiques et d'élus, par rapport finalement à une aile gauche qui est parfois est un peu plus technocratique. Ça, c'est quand même une différence qu'il faut quand même noter. Donc, c'est des gens qui ont une expérience, en tout cas, d'élus. Mais là où je rejoins ce que vous dites, c'est qu'en effet, il y a une transformation du cœur électoral de la Macronie. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce qui explique aussi le poids qu'est en train de prendre Édouard Philippe. On voit bien que, si vous voulez, entre 2017 et 2019, la transformation des bases électorales de la majorité est en train, finalement, de transformer même la façon dont la Macronie fonctionne. C'est-à-dire qu'on voit que l'électorat de droite qui a voté aux européennes n'est pas l'électorat de centre-gauche qui a voté lors de l'élection présidentielle. Donc ça, je pense que ça a une influence directe. Ensuite, ben, il y a tout simplement l'aspect constitutionnel. C'est qu'un président de la République qui a été surexposé durant ces deux premières années a tout intérêt aujourd'hui à user jusqu'à la corde, si je puis dire, son Premier ministre. Le Premier ministre, il est là, c'est l'article 20 de la Constitution, il est là pour diriger la politique du gouvernement. Donc il y a un intérêt, j'allais dire, à la fois en termes de stratégie politique et aussi en termes de communication, en faisant monter au front un Premier ministre qui va maintenant décliner la feuille de route.
Pauline Thévenot, vous voulez réagir là-dessus ?
Oui, absolument. Ce que vous disiez est très juste. Le Premier ministre, là, aujourd'hui, il est dans un rôle de pur chef du gouvernement. Il est dans l'opérationnel, les grands chantiers, les annonces de calendrier. Voilà, il est dans ce rôle, il a les mains un peu dans le cambouis et lui, il s'occupe de la mise en œuvre. Il faut, je le redis parce que c'était marquant dans son discours, mettre en œuvre fidèlement. Cela dit tout de son rôle. Par ailleurs, il faut noter que si certes l'aile droite là de l'exécutif a du poids, notamment avec cette dérive du socle électoral, mais attention, c'est quelque chose qui préoccupe Emmanuel Macron au premier chef, parce que il se rend bien compte que avoir perdu toute une partie de son socle électoral de la présidentielle de 2017 issue du centre-gauche, c'est pour lui un problème. Et donc là, il a à cœur quand même de recorriger et de rééquilibrer un petit peu, si ce n'est sa politique, puisqu'il l'a dit, il garde le cap, mais au moins les messages qui sont envoyés. Et il a à cœur de reconquérir cet électorat-là.
Alors, on va en reparler, évidemment, mais donc assumer son rôle, c'est aussi assumer ce qu'il est. Il l'a dit, Édouard Philippe, il vient de la droite, il ne croit pas à la décroissance, il croit à l'industrie et à la science. Alors, il nous parle d'accélération écologique, on va en reparler, mais il l'aborde tout de suite assez sévèrement,
Jean-Benedetti. Oui, il aborde. Alors, c'est vrai qu'il y avait
Arnaud Benedetti.
Il y avait presque un côté, il y avait presque un côté pompidolien dans le ton qui était employé par le Premier ministre. Mais quand même, moi, ce qui m'a frappé en l'écoutant le Premier ministre, c'est que, en effet, il y a une espèce de, si vous voulez, pas de contradiction, mais de différence entre, en effet, une droitisation apparente de la Macronie et un discours qui finalement était assez écolo-sociétal sur le fond, comme si on faisait, disons, porter à un Premier ministre de droite, des réformes qui, d'une certaine manière, allaient parler plutôt au cœur électoral de la gauche. Alors, je ne sais pas si c'est forcément aujourd'hui voulu, mais en tout cas, il y a cette impression qui se dégage après, disons, ce discours de politique générale du Premier ministre. Je trouve que finalement, les marqueurs à droite sont moins présents finalement, dans ce discours, qu'on aurait pu l'attendre, qu'il s'agisse de la dette, qu'il s'agisse même d'un certain nombre de réformes sur le plan économique.
Pauline Thévenot.
Et c'est tout à fait intentionnel. Il ne faut pas oublier qu'il y a 15 jours, Emmanuel Macron, en Conseil des ministres, en voyant justement tous ces ralliements de droite et cet électorat de droite qui avait voté massivement pour la liste LREM aux européennes, a dit « attention, le « et » en même temps ». C'est aussi l'aile gauche et il faut le faire vivre. Et là, c'était très marquant dans le discours du Premier ministre. Il y a un détail rigolo, c'est que Édouard Philippe, quand il cite les premiers ministres qu'il a pris pour modèle, alors là, il respecte tout à fait le M. Et en même temps, puisqu'on a d'un côté Rocard, Pierre Mendès France, de l'autre Pompidou et évidemment son mentor Alain Juppé. Là, on ne pouvait pas mieux dire. D'ailleurs, le slogan « en même temps », il l'a lui-même utilisé dans son discours.
Centre-gauche et centre-droit, effectivement. Alors, les 12 prochains mois seront ceux de l'accélération écologique, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qui est érigé en priorité numéro 1. Très franchement, vous avez commencé à en parler, Arnaud Benedetti. Comment convaincre, compte tenu de ce qu'il a dit avant ? J'ai fini par en être convaincu, mais il m'a fallu un peu de temps. C'est vrai, je suis de droite. Enfin, est-ce que ça va être facile de convaincre les électeurs qui se sont tournés vers les Verts aux élections européennes ?
Alors, d'abord, il faut quand même bien avoir conscience que l'électorat vert, c'est un électorat qui est assez hétéroclite aussi. Donc, il ne faut jamais, si vous voulez, considérer que l'électorat écologiste est un électorat qui constitue un bloc homogène. Et d'ailleurs, il y a une fragilité de l'électorat écologiste. Ça se voit lors de chaque élection. C'est pas parce que les Verts ont fait un bon score lors de cette élection européenne que ce score sera reproduit lors des élections municipales.
Ils avaient déjà fait mieux avant de quasiment disparaître.
Voilà, disparaître. Donc il y a une fragilité, une espèce de, vous savez, de côté très liquide dans le vote vert qui quand même, dont il faut tenir compte. La vérité, c'est que, si vous voulez, vis-à-vis des Verts les plus idéologues, en tout cas, Édouard Philippe n'est pas forcément, je veux dire, l'homme le plus crédible en matière de discours écologique. C'est quelqu'un qui quand même défend un modèle productiviste, d'ailleurs comme le président de la République. Et ce modèle productiviste, il est quand même combattu par, disons, l'aile la plus radicale, en tout cas des Verts, et qui, elle, ne se retrouvera certainement pas dans le discours du Premier ministre. Mais on voit bien qu'il y a la volonté depuis maintenant plusieurs semaines, de plusieurs mois, de la part du gouvernement et de la part du président de la République, de rattraper finalement le déficit lié au départ notamment de Nicolas Hulot au mois d'août dernier.
Pauline Thévenot, convaincre sur ce plan-là, c'est une mission difficile pour Édouard Philippe ?
Ah oui, puisque, comme vous le disiez à l'instant, avec le départ de Nicolas Hulot, et puis moins médiatisé, mais tout aussi signifiant, celui du député Mathieu Orphelin, il y a quelques mois, on voit qu'en tout cas, ils en ont l'intention. C'est notable. Il a commencé son discours par cela, Édouard Philippe. Il a énormément insisté là-dessus. Alors là, pour le coup, on était dans le concret. Hein. Il a parlé des boîtes en plastique, du Nutri-Score. Le problème, c'est que quand bien même il dit que les 12 prochains mois seront ceux de l'accélération écologique, il y avait pas ou peu d'annonces nouvelles, et on est quand même loin du plan Marshall que réclamait et qu'appelait de ses voeux ce matin Pascal Canfin dans nos colonnes du Parisien.
Eh oui, Arnaud Benedetti, il y avait finalement assez peu d'annonces concrètes et nouvelles. Il a rappelé des annonces qui avaient déjà été faites ces derniers mois. Sur ce plan-là, sur le plan écologique, on a un peu l'impression d'un discours qui insiste dessus, mais sans vraiment frapper fort.
Oui, parce que, encore une fois, je pense que le gouvernement et la majorité sont contraints tout simplement par leur logiciel politique et leur logiciel économique. Et c'est la limite finalement aujourd'hui du discours écologique du gouvernement. C'est-à-dire que, en effet, on est plutôt dans un discours qui relève d'une certaine façon de l'incantation quand même, il faut le dire, sur ce sujet-là, et qui ne correspond pas forcément, en tout cas, au cœur politique et à l'offre politique telle que la défendent les écologistes. On voit bien qu'il y a quand même une sorte de contradiction entre cette volonté d'être vert dans le discours et puis, d'une certaine façon, des actes qui manquent, en tout cas certainement pour les Verts, de contenu et de concret.
Deuxième axe de ce discours, et vous avez commencé à en parler tous les deux, la justice sociale. Là, Édouard Philippe a employé des éléments de langage qui sont très clairs, hein, qui viennent de son camp, en parlant notamment de valeur travail, de lutte contre le chômage, des retraités qui gagnaient peut-être, qui avaient un niveau de vie un peu supérieur à ceux qui travaillent. Là, c'est très clair, il va continuer à assumer une politique libérale, Pauline Thévenot.
Ah oui, mais de toute façon, il a dit, dès l'entame de son discours, l'acte 2, c'est quoi ? C'est un profond changement de méthode. Alors ça, on attend d'en savoir un peu plus, d'y voir un peu plus clair, parce que ça reste quand même assez flou et assez dans la déclaration d'intention. Mais politiquement, sur le fond, c'est constance et cohérence. Ce sont ces termes, et c'est ce que dit l'Élysée, c'est la ligne du président de la République depuis la fin du grand débat, c'est de dire pourquoi il parle d'acte 2, parce que il ne veut pas parler ni de virage ni de tournant. Le cap reste le même. Quand Édouard Philippe dit notre ennemi c'est le statu quo, quand la consigne en Conseil des ministres et la semaine dernière d'Emmanuel Macron c'est de continuer à accélérer, voilà, il reste les réformateurs qu'ils disent être depuis le début du quinquennat. Ils veulent continuer sur leur projet, et le changement, si changement il y a, sera à voir. La promesse, c'est que ce changement, si changement il y a, ce sera dans la méthode, la façon de faire, le ton, mais certainement pas sur la ligne politique.
Arnaud Benedetti, ça, il a voulu être très clair, le Premier ministre, là-dessus. On continue. L'acte 2 ressemble beaucoup à l'acte 1, sauf que ce seront de nouvelles réformes, quoi.
Oui, alors, avec quand même le fait qu'entre-temps, il y a eu la crise des gilets jaunes et qu'on a quand même quelque part cédé un certain nombre de choses. Je rappelle quand même, il y a eu 17 milliards d'euros qui ont été mis sur la table, ce qui n'est pas tout à fait négligeable. Donc, il y a un discours en effet qui se veut ferme sur la volonté de réforme. Sur les actes, ça a déjà quand même un peu bougé. Moi, je suis frappé d'une chose, c'est que finalement, il y a un discours qui ne va pas forcément, à mon sens, faire adhérer les classes moyennes supérieures, notamment sur la baisse des impôts, parce que la baisse des impôts ne touchera pas les classes moyennes supérieures, et il ne faut jamais oublier que les classes moyennes supérieures constituent le socle électoral de la Macronie. C'est quand même eux qui votent prioritairement pour Emmanuel Macron et les marcheurs. Donc là, il y a une question qui va se poser, et je ne suis pas sûr que le discours, en tout cas la dimension sociale du discours que souhaite éventuellement assumer le Premier ministre, soit de nature aujourd'hui à, disons, faire adhérer les classes populaires au logiciel politique d'Emmanuel Macron.
Pauline Thévenot, comment peuvent réagir ceux qui s'appellent entre eux les bisounours de la majorité? J'ai lu ça dans le Parisien il y a quelques mois.
C'est le nom de leur boucle WhatsApp, Telegram, pardonnez-moi, parce que non, les marcheurs sont sur Telegram, et c'est le nom de leur boucle sur laquelle ils échangent entre eux, c'est l'aile gauche de la majorité.
Alors, les bisounours, c'est comme ça qu'ils s'appellent entre eux, et c'est-à-dire que ce sont ceux qui veulent que la majorité marche aussi sur sa deuxième jambe, c'est-à-dire sa jambe gauche. Comment ils peuvent réagir à un discours comme ça?
Alors, les bisounours, il faut noter, déjà cet après-midi, ils ont eu un gros cadeau, c'est enfin un calendrier pour, non pas la présentation au Conseil des ministres, mais l'enjeu, c'était l'examen au Parlement, à l'Assemblée nationale, de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Et ça, c'était un point très important pour eux. Il y a eu une grosse bataille en coulisses et de grosses offensives, justement, de cette aile gauche de la majorité. Et je peux vous dire que j'ai échangé par SMS avec des représentants de cette aile gauche pendant le discours de politique générale du Premier ministre. Quand le moment PMA est arrivé et qu'il a annoncé que ce serait examiné fin septembre au Parlement, ils exultaient littéralement. Et après, ils vont continuer à essayer de peser, de continuer à influencer sur la politique. Peut-être que leur chance, c'est que le président de la République a compris que son socle électoral de centre-gauche, comme on le disait tout à l'heure, de la présidentielle de 2017, qui était vraiment le gros bataillon, qui avait formé le gros bataillon de ses électeurs, lui avait tourné le dos lors de ces européennes. Donc leur chance, c'est peut-être qu'ils se soient rendus compte de ça et qu'ils veuillent les rattraper. Par ailleurs, certains au sein de l'exécutif, des ministres comme Jean-Yves Le Drian, Didier Guillaume, Olivier Dussopt, qui viennent du Parti Socialiste, et qui, alors ça c'est ce qui corrige un petit peu l'image qu'il n'y aurait que les ministres de droite qui sont politiques au sein du gouvernement, eux aussi sont de vieux routiers de la politique, commencent à s'organiser, à réfléchir à la création soit d'un mouvement, d'un parti ou d'une plateforme de gauche qui permettrait d'accueillir des transfuges, ce qui reste du Parti Socialiste, et à faire vivre peut-être plus une mouvance de gauche au sein de la majorité.
La mouvance de gauche, peut-être, ça se travaille aussi dans le changement de méthode, le changement de ton, plus de concertation. Vous en pensez quoi, Arnaud Benedetti? C'est quelque chose qui peut aider également des gens qui votent traditionnellement à gauche à se rapprocher un peu?
Peut-être, si vous voulez, c'est vrai que depuis le début du mandat, il y a manifestement une critique sur la façon dont le président de la République et même son premier ministre gère le calendrier des réformes et de la transformation. C'est-à-dire qu'on considère que les corps intermédiaires, notamment, ont été insuffisamment associés, que le groupe La République En Marche fonctionne de manière vraisemblablement peut-être trop verticale. Donc, il y a certainement une demande, disons, d'expression plus démocratique dans la production de la décision publique. Mais moi, je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est que au niveau de la jambe gauche, c'est que, si vous voulez, il y a deux gauches. Il y a la gauche sociétale et la gauche sociale. Ce ne sont pas d'ailleurs forcément les mêmes. Et on voit que, quelque part, le Premier ministre a donné des gages plus à la gauche sociétale qu'à la gauche sociale, et quand même quand même, la question de la gauche sociale est absolument essentielle pour l'avenir.
Merci Arnaud Benedetti, merci Pauline Thévenot d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Arnold Assoa à la coordination, Vanadis Feuille à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Fabrice Violet. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter et nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, ce sera demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.